Et bonsoir, comme tous les dimanches soirs, la courte échelle. Donc la courte échelle, c'est contre tous les abus pénitentiaires, toutes les fraudes pénitentiaires, voilà. Donc la courte échelle, vous pouvez écrire à la courte échelle, 12 rue François Simon, La Friche de la Belle de Mai, 13003 Marseille. Vous avez également aussi l'adresse email que vous pouvez envoyer vos témoignages ou si vous avez des infos contre les prisons, voilà, vous pouvez écrire à l'adresse email suivante la-courte-échelle@rizup.net. Et ce soir, on a Abel.
Salut.
Salut. Il y a Gaïa.
Salut.
Il y a Charlie.
Salut.
Il y a Liane.
Coucou.
Il y a Syl.
Coucou.
Il y a Madou.
Coucou.
Et il y a moi, il y a Vivi. Donc,
coucou.
Voilà. Et l'équipe qui se. Et qui revient en force. Voilà. Donc,
en force.
Ouais, en force.
On revient, tant bien que mal.
On revient en force. Et plus on est, mieux c'est. Voilà quoi. Donc ce soir on va réagir sur un témoignage que j'ai pris moi-même devant les Baumettes, hein, parce que je fais des distributions pour faire de la pub pour la radio Radio Calaire, voilà. Donc ce soir j'ai pris un témoignage d'une famille qui m'a touchée. Ça concerne un enfant handicapé. Après on va venir sur un autre sujet, sur un courrier. Et après Liane, il y a.
Après on va parler de plein de choses différentes, mais on va revenir un peu sur Fabrice qui a été donc transféré à Condé récemment et qui va être enfin où il y a un on va dire le communiqué de proches de lui qui appelle à le soutenir. Donc on va réexpliquer un peu sa situation. Après on va parler un peu des grèves de la faim qui s'organisent actuellement au Royaume-Uni. Ensuite on va rapidement revenir sur le QLCO et normalement ce sera tout. Mais du coup, pour commencer, on va
prendre le témoignage que j'ai pris.
Peut-être juste pour préciser, parce que pour l'avoir, c'est plus facile pour comprendre. C'est un enfant en situation de handicap qui veut aller voir sa mère en parloir.
Voilà.
Et donc le témoignage concerne ça. Comment, à quel point c'est compliqué ou pas de rendre possible ce parloir là.
C'est très compliqué pour la famille, pour la maman et surtout pour l'enfant concerné. Parce que voilà quoi, donc j'ai pris un enregistrement et ça m'a touché parce que le papa se démène par tous les moyens pour faire le confort de son fils, pour pas être traumatisé, choqué, encore plus le mode carcéral qui est devant les parloirs. Donc il a un fauteuil adapté, donc on l'oblige à changer de fauteuil que eux n'ont pas, la pénitentiaire. Des attachements exprès pour des fauteuils adaptés pour lui. Et il est obligé d'écrire à la directrice pour avoir une gourde, une bouteille d'eau. Mais je trouve ça aberrant de demander ça à une directrice, parce que, je sais pas, surveillant pénitentiaire, vous buvez pas pendant votre service. Ben. C'est inhumain. Et cet enregistrement, vous allez voir, ça... Moi, ça m'a touché et je vous dis bonne écoute sur cet enregistrement.
Yes.
Et après, on réagira par derrière.
Ça arrive.
Alors. Galère. Est-ce que vous voulez témoigner sur tous les problèmes que vous rencontrez à la pénitentiaire concernant votre enfant qui est handicapé, comme les boissons, les
drogues? Moi, en fait, j'ai un fils qui est handicapé et tout. Donc déjà au début ça a été compliqué parce qu'au début il voulait pas le faire entrer avec son fauteuil roulant, il voulait le faire que je le transfère sur un fauteuil roulant qu'ils ont eux mais qui n'est pas adapté à mon fils parce qu'il n'y a pas les sangles pour l'attacher et tout. Donc après finalement ils ont accepté et tout. Et à part contre,
ils ont accepté parce que vous avez fait un courrier à la direction. Alors que C'est eux-mêmes qui peuvent décider parce qu'ils vont toujours faire entrer.
Voilà, après il y a eu aussi le problème avec les bouteilles d'eau, où depuis le mois de mai que je viens jusqu'à... du mois de mai que j'ai commencé à amener mon fils, jusqu'à septembre, je rentrais avec sa gourde remplie, plus deux bouteilles d'eau, une pour moi pour dans le box et une pour lui remplir quand il a fini son biberon jusqu'au mois de septembre.
Facile à contrôler. Dit.
Facile et tout, il regardait, fouillait, voyait qu'il y avait sa gourde d'eau remplie, plus deux bouteilles d'eau jusqu'au mois de septembre, ils m'ont rien dit, ils me laissaient rentrer, et au mois de septembre, ils ont commencé à me dire, non, c'est que deux bouteilles d'eau, ou soit le biberon plus une bouteille d'eau.
Donc, et vous avez sorti le nouveau règlement qui
non,
sorti,
non ils m'ont dit que ils m'ont montré le règlement comme quoi c'était une bouteille. Donc c'est vrai que le règlement il y a marqué une bouteille d'eau par personne. Mais alors pourquoi au mois de juin jusqu'en septembre et les mêmes gardiens, hein, exactement pas des nouveaux ou quoi, des gardiens qui m'ont déjà vu rentrer avec un biberon plus deux bouteilles d'eau. Et en plus, ils me font passer pour moi pour un menteur. Ils me disent non, c'est impossible. Et après, quand je leur dis, ah oui, mais on a fait une exception, mais il faut que vous attendez de recevoir le courrier. Donc là, normalement, j'ai fait le courrier à la chef des parloirs. Donc moi, mon ex-compagne, quand elle m'a appelé, elle m'a dit que c'est bon. Elle avait bien reçu le tampon de la chef des parloirs, comme quoi ça avait été validé pour que je rentre avec 100 biberons remplis, plus deux bouteilles d'eau.
Et vous rencontrez aussi des problèmes pour avoir le box adapté pour le handicap?
Oui. Depuis le mois de juin que j'ai fait la demande, je l'ai eu que maintenant, et parce que j'ai commencé à m'énerver et que si ça restait dans cette situation, j'allais contacter le défenseur des droits, parce que c'est pas normal que je leur ai demandé que même sur le règlement à eux, il y a marqué que pour les personnes handicapées, il faut faire la demande au chef d'établissement et tout, avec le certificat médical et tout. Donc j'ai bien joint le certificat médical comme quoi que le pédiatre de mon fils a fait, comme quoi il fallait, via son handicap, un parloir adapté, un parloir adapté et qui ne se déplace que dans son fauteuil roulant et tout. Et j'ai réussi à l'avoir il y a à peine, ça fait 2 semaines que je commence à l'avoir.
Ok, donc c'est récemment.
Voilà, c'est pour le moment. Je vais voir aujourd'hui s'il me repasse le parloir aménagé ou s'il me remette dans un box normal.
À savoir que votre compagne, à l'intérieur, il y a des défenseurs des droits des détenus avec un numéro gratuit. Ça s'appelle 3141 et qu'elle explique aussi avec ce billet-là. Qui viennent voir lors des visites comment ça se passe au parloir. Donc c'est facile à retenir, c'est 3141. Et si vous avez besoin, la radio est là, la Courtechelle est là de 19h à 20h le dimanche. Et vous pouvez réagir en direct à la radio, comme on va faire réagir ce témoignage à la radio dès dimanche.
Merci beaucoup.
Et bien, avec grand plaisir, à savoir que vous pouvez venir quand vous le souhaitez. Voilà.
D'accord, merci.
Ben voilà, comme vous voyez, hein, papa qui est dans le désespoir, faire toujours les démarches au confort de son fils. Et encore, quand vous voyez la scène, quand vous voyez l'enfant, quand vous voyez le père devant le parloir, et que vous avez l'abruti qui ouvre sa porte, là, qui s'appelle surveillant pénitentiaire, je sais pas, même les caissières, ils disent « Oh, les handicapés à ma priorité ». Dehors, dans la ville, on vous dit handicapé priorité. Pénitentiaire. Les enfants, c'est pas priorité. Les handicapés, c'est pas priorité. Jusqu'à ce point, ils sont inhumains, ces gens.
Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est pas grand-chose qui est demandé. Le box spécial pour les personnes en situation de handicap, ils l'ont, il suffit de le faire. Avoir un peu plus de bouteilles d'eau parce que l'enfant, il a besoin de beaucoup boire. C'est vraiment pas compliqué à accéder. Et l'appareil, déjà merci d'être allé devant les parloirs et d'avoir pris cet enregistrement avec ce père. Mais en plus, il te montrait en photo la lettre.
Il m'a montré la lettre.
C'est un peu ridicule d'écrire une lettre à la chef des parloirs pour demander ce genre de détails là, quoi.
Pour avoir de l'eau.
Et oui, même ce qu'il disait de devoir changer de fauteuil. Bref, ça fait beaucoup
Et peut-être qu'il faudra que peut-être Sarkozy va faire une lettre à la direction pour avoir une bouteille d'eau. Je sais pas.
Peut-être on y reviendra.
Parce que déjà Sarkozy. Lui il a 4 parloirs sans difficulté de plus de 45 minutes. Je sais pas, les détenus, on doit être tous pareils. Et que ça s'appelle Sarkozy ou pas, c'est pareil. Et en plus, il mange pas. Hein. Il mange que des yaourts. Il a peur de se faire empoisonner par la détention elle-même.
Sarkozy, tu parles du coup.
De Sarkozy, à la santé. Oui. Voilà. Et on va faire peiner un handicapé. Voilà la différence. Je prends un extrême. Mais en attendant, il y a des parloirs qui ont été annulés, il y a des gens qui galèrent pour avoir les permis de visite, il y a des gens qui galèrent pour avoir un box machin, et lui, en claquant des doigts, il a tout. Mmh. Voilà. Justice française, et on va dire à la suite.
Est-ce qu'on enchaîne avec ce qu'on voulait dire sur Fabrice, et on revient sur Sarkozy à la fin, sinon rien du tout. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, grave.
Vous, vous
qui c'est qui lit la lettre?
Ah oui, d'accord.
C'est la reprise, c'est Radio Galère.
On partage les micros aussi.
Voilà.
D'un pote, Fabrice, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans différentes émissions. Et du coup, il y a un texte qui a été écrit pour appel à soutien.
Fabrice est un prisonnier guadeloupéen enfermé depuis 2010 et déporté en métropole en 2011. Depuis, il réclame son transfert en Guadeloupe auprès de ses proches qui ne peuvent pas venir lui rendre visite aussi loin. Une double peine qu'il subit comme de nombreux autres prisonniers transférés de territoires colonisés. Fabrice a essayé de se faire entendre par tous les moyens, ne recevant que mépris et répression en réponse. Il est allé jusqu'à faire ce que l'administration pénitentiaire appelle des prises d'otages. Il a retenu dans sa cellule des membres du personnel pénitentiaire dans l'espoir d'être enfin entendu. Maton, administration et institutions judiciaires lui font payer ses actes de révolte par des représailles infinies. Il a été condamné à une 20aine d'années supplémentaires à l'intérieur alors qu'il était entré pour une peine de 8 ans. Pendant de longues années, en quartier d'isolement, les lieux de destruction physique et psychique, il n'a été en contact qu'avec des surveillants casqués. Il a subi la violence d'escortes suréquipées, le menottage à chaque mouvement et les fouilles systématiques, les repas jetés par une trappe, l'impossibilité de voir un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, SPIP, dans des conditions décentes. Ce traitement a eu de graves conséquences sur la santé de Fabrice. En 2017, il a reçu deux grenades assourdissantes jetées par des surveillants dans sa douche. Ça l'a rendu sourd d'une oreille. Il a aussi souffert d'un grave ulcère à l'estomac provoqué par le stress. L'administration s'est contentée s'est cantonnée dans un refus de soins récurrent. Jusqu'en mars 2025, à la prison de Vendin-le-Vieil, Fabrice a subi des injures et des provocations racistes pendant des mois. Il en a fait part à la direction de l'établissement, à la direction interrégionale des services pénitentiaires, DISP, Grand Nord, Lille, et à la direction de l'administration pénitentiaire, DAP. La DAP et la DISP ont répondu, mais sans rien faire pour mettre un terme à ces agissements.
Fabrice a tout de même obtenu un transfert à la maison centrale de Valence où il a été sorti d'isolement au mois de juin pour à peine quelques semaines et ce pour la première fois depuis plus de 13 ans. Mais comme il a porté plainte contre les surveillants qui l'ont rendu sourd, l'administration pénitentiaire a repris les hostilités aussitôt. Elle l'a transféré en maison centrale sécuritaire de Condé-sur-Sarthe, son troisième transfert en un an. Il y est enfermé dans des conditions particulièrement dures, toujours en quartier d'isolement, où des surveillants cagoulés et lourdement équipés le menottent et l'entravent à chaque sortie de cellule. Condé-sur-Sarthe est une des fameuses narco-prisons où sont mises en place les nouveaux QLCO, quartier de lutte contre la criminalité organisée, une réhabilitation explicite des QHS, quartier de haute sécurité du XXe siècle. nous lançons une campagne de solidarité avec Fabrice pour faire connaître son combat, pour briser un peu l'isolement et dire stop à la fonction coloniale et au racisme de la prison. Et raciste de la prison. Il est important de relayer cet appel. La sécurité de Fabrice en dépend. Et puis, il y a une cagnotte. Et puis, il y a une cagnotte, car en prison, tout coûte cher. Les cantines, le frigo et surtout le téléphone pour la Guadeloupe. Là, il y a un lien pour la cagnotte. C'est des proches de Fabrice qui l'ont mis en place. Je peux les peler.
Bah, peut-être c'est enfin, en tout cas, le lien de cette cagnotte et d'une autre sont en description de notre page sur Radio Galère. Du coup, vous pouvez le retrouver là. Après, je sais pas s'il y a des personnes à l'intérieur qui... Enfin, dans tous les cas, pour pouvoir accès au lien, il faut avoir accès à Internet. Et si vous avez accès à Internet, vous avez accès à la page de la courte échelle sur Radio Galère. Il suffit d'aller sur le site de Radio Galère, d'aller dans Programmation et de cliquer sur la courte échelle le dimanche soir. Et vous aurez les liens de cette cagnotte-là et d'une autre sur laquelle peut-être je peux revenir juste après.
Bah, force à lui. On vous donnera des nouvelles de Fabrice quand on en aura directement à travers les potes. Et force à lui en attendant. Et si vous avez envie de participer à la cagnotte, c'est super. J'en profite pour dire qu'il y a aussi la cagnotte d'un autre pote qui est enfermé. Et si la cagnotte atteint son objectif, il pourrait peut-être être libéré. Si jamais vous avez de la thune et que vous avez envie de les soutenir, c'est super. Et elle se trouve au même endroit que la cagnotte décrite par Liane sur la courte échelle.
L'autre camarade, c'est une personne qui avait témoigné contre le centre de rétention de Marseille il y a à peu près un an, à la fin de 2024. Au moment où il y avait des grèves de la faim dans le CRA, et si vous avez accès à Internet, vous pourrez... Allez voir dans les podcasts de cette émission où on peut avoir son témoignage. Et oui, du coup, après la situation de Fabrice est assez bien résumée par le texte. Juste pour dire que, comme c'est dit rapidement, le fait d'enfermer les prisonniers des colonies françaises en métropole, c'est un truc assez structurel qui arrive souvent, qui est actuellement le cas avec des Kanaks ou avec d'autres personnes, et qui fait que c'est hyper dur de soutenir ces prisonniers-là parce qu'ils sont hyper loin. Du coup, force à lui et force à tous les prisonniers des dom-toms et métropole. Et aussi, il a pris beaucoup de peines internes pour ce que l'administration appelle des prises d'otages, qui sont effectivement des moments où les prisonniers ne sont pas du tout entendus et leur seul moyen de se faire entendre, c'est de retenir des personnes dans des cellules.
Des prises d'otages ou des prises de parole.
Voilà. Que l'on peut aussi appeler des prises de parole et qui lui ont valu énormément de peines internes, alors que c'était vraiment pour dénoncer ses conditions et son éloignement de ses proches. Voilà. Et que depuis, il subit énormément d'acharnement de la part de la paix. Est-ce que...
Et les transferts vers les CO qui commencent la semaine prochaine.
Oui, il y a les transferts vers Condé-sur-Sarthe pour remplir le QLCO qui apparemment commencerait à partir de maintenant. Et que du coup, ça rentrerait dans ce cadre-là, le transfert de Fabrice.
Troisième de l'année.
En tout cas, si on peut avoir des nouvelles, qu'il le fasse.
Bon, après, Condé, c'est loin. Je suis pas sûr qu'ils entendront Radio Galère, mais...
Le message, ça peut passer des fois.
Je voulais dire ça tout à l'heure, mais peut-être je peux en profiter pour le dire maintenant. Du coup, là, l'info est confirmée. Ça a été confirmé dans les médias, mais aussi par des potes à l'intérieur, que du coup les transferts vers les QLCO, les quartiers de lutte contre la criminalité organisée de Condé, ils commencent la semaine qui arrive. Et parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait que les quartiers terreaux, les QPR, terroristes, et le quartier d'isolement. Là-bas. Enfin, du coup, voilà. Ça commence les transferts là-bas.
Okay, jusqu'à maintenant, c'était surtout à Vendin, du coup.
Enfin, ouais, c'est ça.
C'est rempli, c'était Vendin.
Exactement. Du coup, là, ça commence à se remplir à Condé aussi.
C'est toujours eux qui décident comment. C'est encore d'éloigner les familles.
Peut-être on continue avec la grève de la faim.
Ouais, carrément. Du coup, en parlant de colonialisme et la place de la prison dans tout ça. C'est au Royaume-Uni, donc il y a plusieurs personnes qui ont été incarcérées pour des affaires liées à des actions directes contre une compagnie, une entreprise qui fournit des armes et des systèmes de surveillance à Israël et qui donc permettent le génocide contre le peuple palestinien qui est en cours depuis plus de 2 ans. Et donc ces personnes ont décidé de s'attaquer à cette entreprise qui s'appelle Elbit et il se trouve en prison depuis plus d'un an. Et ils ont décidé de commencer une grève de la faim collective le 2 novembre dernier. Donc c'est l'anniversaire de la déclaration de Balfour, qui était un noble anglais qui octroyé aux futurs Israéliens sionistes l'occupation du territoire de la Palestine. Donc dans cet anniversaire, ils ont décidé de commencer une grève de la faim contre les conditions inhumaines auxquelles ils sont soumis et des conditions de privation sensorielle. Ils sont réveillés plusieurs fois pendant la nuit. Ils essayent de leur empêcher le contact avec l'extérieur, avec leurs proches, et aussi pour certaines qui sont donc d'origine palestinienne et qui sont musulmanes, ils leur empêchent le temps de prière et l'accès, par exemple, au Coran. Vraiment donc dans un truc aussi d'islamophobie et de racisme. Et donc ces personnes ont décidé de commencer d'entamer une grève de la faim en demandant l'amélioration de leurs conditions de détention, mais aussi sur un plan plus large, en dénonçant la complicité de l'État anglais avec le génocide en Palestine et en demandant la fermeture de toutes les entreprises d'Elbit sur le territoire anglais. Et si cette grève de la faim, elle continue, enfin en tout cas, elles sont déterminées à continuer jusqu'à ce que leur demande ne soit pas écoutée et prise en compte. Donc c'est potentiellement une grève de la faim qui peut les mettre très en danger parce que, on sait très bien que les États très souvent s'en foutent de préserver les conditions de santé des prisonniers prisonnières, mais plutôt ils veulent montrer qu'ils sont assez forts pour écraser toute individualité. Et donc ça serait la deuxième plus grande et plus suivie grève de la faim dans des prisons anglaises depuis les temps de l'armée républicaine irlandaise, donc ce groupe armé qui prônait l'indépendance de l'Irlande vis-à-vis de l'Angleterre. Donc parce que non seulement Israël est un État colonial, mais aussi le Royaume-Uni, en fait, c'est un pays qui naît d'une colonisation. Voilà. Et on avait envie de lire 2 déclarations qui ont été faites par 2 des prisonniers qui sont en grève dès la fin. Donc là, actuellement, il y a 6 prisonniers-prisonnières dans les prisons anglaises qui sont en grève dès la fin. Et il y a un prisonnier anarchiste qui s'est joint à cette grève de la fin en Italie. Et on leur envoie beaucoup de force et on espère que, d'un côté, on espère que leur lutte, elle sera suivie, mais aussi qu'ils vont réussir à obtenir ce qu'elles demandent et que bientôt la Palestine sera libre.
On espère en tout cas. Force et courage à eux.
Donc je vais commencer à lire la déclaration de Heba Mouraizi. Je sais pas comment on le dit, désolé pour la prononciation. Aujourd'hui, je me joins à mes camarades et commence ma grève de la faim. Je tiens à préciser très clairement qu'il ne s'agit pas de mourir, car contrairement à l'ennemi, j'aime la vie. Et c'est mon amour pour la vie, pour les gens, qui m'a valu d'être incarcéré depuis maintenant 349 jours. Les horreurs et les souffrances dont j'ai été témoin à Gaza resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Et tandis que le monde restait les bras croisés et se contentait de paroles creuses, nous avons collectivement condamné nos frères et sœurs en Palestine à une vie de misère et de mort. Et avec le génocide systématique en cours, l'État s'est rendu complice et y a participé dès le début. Ces tyrans veulent maintenant signer un contrat de 2 milliards de dollars avec Elbit, une entreprise monstrueuse qui tire profit du sang de nos frères et sœurs en Palestine. Elbit est un fournisseur d'armes sionistes, terroristes, basé ici au Royaume-Uni, avec plusieurs bureaux à travers le pays. C'est ici même, à notre porte, que ces équipements meurtriers sont fabriqués pour être testés sur les Palestiniens, puis vendus aux mercenaires de la guerre dans le monde entier. La souffrance des Palestiniens enrichit Elbit, et les statistiques le prouvent. Dans une tentative pathétique de se laver les mains du sang, Starmer a maintenant reconnu l'État de Palestine, alors que la Palestine est devenue impossible à reconnaître. Nous n'oublierons jamais et nous ne pardonnerons jamais. Je savais que pour gagner ce combat, nous devions nous attaquer à la force principale de l'ennemi. Et ici, au Royaume-Uni, il s'agissait d'Elbit. Il ne s'agissait pas d'un recrutement, mais plutôt d'une incorporation consciente de ma part. Je suis devenu Palestine Action.
Et maintenant, derrière ces murs d'acier et ces capteurs, je vais continuer à me battre et à résister. Je le fais pour les mères qui ne peuvent pas enterrer leurs enfants, pour les pères qui ont dû enterrer tous les leurs, pour les enfants qui n'ont plus de famille et qui sont trop jeunes pour comprendre pourquoi, et pour ma famille dont je ne sais même pas si elle a réussi à sortir de Rafah. Je ne ferai aucun compromis tant que toutes les revendications n'auront pas été satisfaites. Vive l'intifada. Et du coup là on passe à la déclaration de Amoujib. Les assassins ne sont pas ici en prison, ils sont à la télévision. Alors ne restez pas assis sur vos canapés, à vous tricoter une corde, résistez. Nous n'avons pas besoin de plus de preuves, ni plus de résolutions de l'ONU. Tant que ces usines fonctionnent, résistez, dans les rues, les prisons, les tribunaux, les docks, jusqu'à ce que les dirigeants du monde libre ne soient plus complices du génocide, résistez. Jusqu'à ce que Gaza soit reconstruite et que la Palestine soit libre, résistez. Ce n'est pas le moment d'écrire un petit mot pour la boîte à suggestion de l'entité sioniste, c'est le moment d'y mettre fin. Tout ce que nous pouvons faire, c'est résister, cela ne fait aucun doute. Mais il reste encore des questions, n'est-ce pas? La question est telle, la Palestine devrait-elle être libre? La question est telle, la Palestine existe-t-elle ou bien son peuple a-t-il le droit de se défendre? La question est telle, est-ce mon problème ou bien que puis-je faire à son sujet? La question est telle, qu'est-ce qui pourrait arriver à mes proches, à moi-même, à ma ferme? La réponse est telle, j'ai peur. J'ai peur de la faim, de perdre des êtres chers, de n'avoir plus rien à perdre, que les rivières s'assèchent, que la terre soit empoisonnée, que des incendies de forêt se déclarent, que l'on invente, fabrique et lance des bombes capables de faire disparaître des personnes et de laisser des trous dans le sol à l'endroit où elles se trouvaient. J'ai peur de notre silence, de ce qu'il semble possible de normaliser. J'ai peur de ce que nous pouvons supporter. J'ai peur de la facilité avec laquelle on peut être emprisonné pour ne pas avoir d'argent. J'ai peur de la guerre, que personne ne vienne quand nous avons besoin d'aide. Mais notre silence, notre peur, notre productivité ne nous protégeront pas. Il n'y a pas d'enfant des autres. Omar, et ça c'est une citation d'Omar El-Akkad. Voilà. Forte déclaration, ouais.
Ouais. Ouais. Merci pour leurs mots et pour leur force. Et puis, ouais, je pense que chacune sait comment... Il y a l'envie d'agir pour la libération de la Palestine et dénoncer la complicité de tous les pays du monde à ce stade, dans le génocide en cours.
Mmh. En tout cas, force et courage à eux.
Peut-être on peut mentionner qu'en France aussi, la répression contre les personnes qui luttent pour la Palestine se fait fortement. Bon, il y a eu récemment l'annonce de la dissolution du PM par Retailleau, il me semble. Par exemple, en faisant le lien entre la résistance palestinienne et le terrorisme.
Et du coup, la dissolution d'urgence palestine, oui. Comparée à une organisation terroriste.
Et concrètement, également, il y a eu donc récemment un Omar Al-Soumi qui est un porte-parole d'urgence palestine qui a été placé en garde à vue et perquisitionné chez lui à 6h du matin, à savoir que depuis un petit moment déjà ses avoirs avaient été gelés sur son compte bancaire, donc il avait déjà de la répression financière, mais en plus bon il avait été perquisitionné et placé en garde à vue. Là il est ressorti et il est sous contrôle judiciaire jusqu'au 6 mai, à voir ce que donne l'audience de cette personne. Mais il lui est reproché d'avoir fait lui aussi de l'apologie du terrorisme. Donc j'ai pas la seule source que j'ai trouvée pour citer en ces dires, c'est un article du Figaro, à voir ce que ça vaut. Mais l'article du Figaro l'accuse de soutenir la défense armée du peuple palestinien. Ce sur quoi, enfin, il y a plein de modalités de défense armée en Palestine. Il y a une longue histoire de personnes qui l'ont fait, et j'ai l'impression que la question, même si, enfin, il pourrait y avoir un débat de à quel point on la soutient ou pas, c'est les personnes qui luttent de aussi, de pas seulement pacifiquement contre un état colonial qui est en train de s'écraser. Ça se réfléchit, mais en tout cas, le fait est de constater que si on soutient Israël, qui est en train de faire énormément de morts, on ne sera jamais taxé de terrorisme, enfin, ou d'apologie du terrorisme, et que si on défend les personnes en Palestine qui prennent les armes, quel que soit leur mode d'action, ils n'ont jamais fait autant de morts qu'Israël, et que dans ce cas-là, on risquera d'être taxé de terroristes, et qu'il y a clairement deux poids deux mesures vis-à-vis de ça, et que voilà, la rhétorique de l'antiterrorisme est utilisée dans ce cadre-là aussi à des fins répressives.
Bah, j'ai l'impression, dans ton discours, ça revient un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur par rapport, par exemple, à Fabrice. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'une personne opprimée se sert des moyens pour se libérer d'une oppression, ces moyens, ils sont appelés des moyens violents, ou ils sont décrédibilisés, ou ils sont criminalisés. Et c'est parce qu'il y a une seule violence qui est légitime, et c'est la violence que l'État et les oppresseurs peuvent exercer. Et dès qu'on essaie de résister à ça, bah, tout de suite, c'est délégitimé. Et je pense qu'il faut, un des moyens aussi de porter de la solidarité aux personnes incarcérées et aussi vis-à-vis des Palestiniens et Palestiniennes, c'est justement de renverser ce discours et de montrer comment, en fait, c'est des formes d'autodéfense et de lutte.
Oui, c'est des luttes. Mais il faut toujours en arriver là, quoi. Il faut toujours arriver avec ces gens-là à la force, et ça répond par la force, et après ça va vous demander de les respecter alors qu'ils respectent même pas eux-mêmes à croire, quoi. C'est voilà, quoi. Alors que bref, après ils diront violence, plus jeune, plus ci, plus cela, on enferme, mais voilà le résultat, hein.
En tout cas, c'est clair qu'il y a eu des réponses violentes de la part du peuple palestinien à la colonisation d'Israël, qui n'ont jamais été à la hauteur en termes de nombre de morts de ce qu'Israël a fait, même si qu'on soutienne ou pas. Et que c'est étrange de pas proportionner notre critique de l'un et de l'autre.
Et d'ailleurs, en termes de répression vis-à-vis du mouvement pro-Palestine en France, il y a aussi eu des arrestations assez violentes il y a deux jours, donc vendredi, à Paris, lors d'une contestation à la Philharmonie, où il y avait un concert de l'orchestre israélien prévu. Il faut savoir que dans cet orchestre, il y a des militaires qui font partie de l'armée israélienne, ont pris part au génocide qui est en cours depuis bien longtemps. Et donc ce concert, il a été demandé plusieurs fois qu'il soit annulé. La Philharmonie a décidé de le maintenir. Donc des personnes s'y sont rendues pour contester la présence de soldats israéliens et de sionistes dans la salle. Et quatre personnes ont été non seulement frappées par le public, mais aussi arrêtées et embarquées en garde à vue, et ils sont passés en comparution immédiate aujourd'hui. Donc apparemment, au tribunal à Paris, ils font du zèle et ils font passer les gens en comparution immédiate le dimanche.
Ah, mais c'est du lundi au dimanche.
En prison, il n'y a pas de jours fériés.
Ils n'ont pas de jours de repos, ces gens-là. Ils sont pourris jusqu'à la moelle.
Voilà. Mais bonne nouvelle, donc les personnes sont sorties. Ils ont un procès plus tard, mais au moins ils sont en liberté.
Eh bien, en tout cas, qui nous tiennent informés, ça sera et assure, voilà. Mais voilà, c'est important d'avoir les témoignages, donc plus on est, plus ça sera, quoi. Donc invite les gens à nous faire savoir, à témoigner, ceux qui vivent, voilà, quoi, parce qu'on sait très bien que, de toute façon, que ça soit pénitentiaire, police, homme d'État, ça répond par la violence, et voilà, quoi.
Peut-être pour faire le lien à propos de terrorisme, je ne sais pas si vous avez vu passer la dernière grosse lubie médiatique autour de la prison dernièrement. C'était à propos d'une, attention, tenez-vous bien, d'une clé USB, parce qu'il y a Salah Abdeslam, donc qui du coup pour le coup est un terroriste qui a vraiment commis un acte de terrorisme puisqu'il faisait partie des personnes qui ont attaqué le débat à Bataclan en 2015. Je crois que d'ailleurs c'est le seul survivant de toutes les personnes qui ont fait ça, que pour le coup on ne soutient absolument pas, hein, que ce soit clair, mais qui est actuellement détenu donc lui aussi à Condé. Et donc du coup tu vas, j'imagine, être placé dans le QLCO de Condé. Au passage, on remarquera que lui n'est absolument pas un narcotrafiquant, hein, et qu'il y a un peu un pont à faire entre la notion de narcotrafiquant et la notion de terroriste actuellement. J'ai l'impression qu'ils font l'amalgame comme si c'était la même chose, c'est-à-dire des gros méchants qui sont tellement méchants que il n'y a plus besoin de se poser la question de la pertinence de nos actions. Ça légitime n'importe quelle réponse violente, n'importe quelle restriction de liberté. On peut leur faire tout ce qu'on veut, on arrête de réfléchir et on répond par la violence. Et du coup, on peut les mettre dans la même prison comme si c'était une seule et même chose, où il faut effectuer le même traitement. C'est un peu pareil avec Redon Faïd qui va se retrouver dans un QLCO alors que il n'est pas narcotrafiquant non plus. Il est, on les appelle prison pour narcotrafiquant, mais c'est pas vraiment vrai. Lui, il était braqueur, mais il a résisté contre la paix. Du coup, on le considère comme très dangereux. Donc voilà, enfin un peu un amalgame des ennemis. Et du coup, ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a la clé USB a pas été trouvée. Hein. Il y a des traces de branchement d'une clé USB sur son ordinateur qui aurait été trouvée. Et du coup, le parquet national antiterroriste dit que c'était très inquiétant et a fait des recherches sur la question pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Bon, j'ai lu pas mal d'articles se mouillaient pas trop, disaient qu'il y avait peut-être des contenus djihadistes. Il y en a un qui disait qu'il y avait des traces d'une vidéo qui avait été vue sur son ordi de propagande djihadiste. À voir un peu quand ce sera retombé, si on prend du recul par rapport à ces informations, ce qui est vrai ou pas. Mais en tout cas, il y a peut-être vraiment de quoi poser la question. Peut-être qu'il y a vraiment, il est vraiment en train d'organiser quelque chose d'un acte terroriste depuis sa cellule. Peut-être pas. Le fait est que pour l'instant, ce que les médias semblent dire, c'est que on n'a pas beaucoup d'éléments à part qu'il y a des traces de présence d'une clé USB sur son ordi. Donc intéressant. Mais est-ce que, enfin, le fait que absolument tous les médias évoquaient la question, ça montre que y a vraiment un focus qui est mis sur ça, une panique. Genre le moindre truc sert à reparler de terrorisme et derrière Darmanin va prendre la parole et dire que du coup ces narco-prisons ont effectivement leur sens. Regardez, le terroriste a réussi à avoir une clé USB. Donc l'angle d'analyse des médias de ça, c'est même s'il n'y a pas grand chose, ça vaut le coup d'en parler, parce que ça vaut toujours le coup de dire qu'il y a des terrorismes et qu'on est en danger dans ce pays, et Darmanin saisit l'occasion pour justifier sa politique et ses nouvelles prisons ultra sécuritaires et liberticides. Et tout ça sous la notion de terrorisme qui permet de justifier n'importe quelle violence d'État sans se poser de questions. Voilà. Je me dis que si on doit définir un terrorisme, j'ai l'impression que dans notre contexte actuel, terrorisme, ça veut juste dire un méchant qui mérite qu'on éteigne son cerveau et qu'on puisse lui faire à peu près n'importe quoi. Ouais.
Faites attention à ce que vous regardez sur Internet maintenant, hein, parce que tout est capté.
Et je sais pas si on avait d'autres...
Ouais, moi je voulais parler aussi du QLCO de Aix.
Yes.
Parce que du coup il y a une date apparemment, du coup ce serait pour juin 2026. Il y a eu la question que ce QLCO remplace le CNE. Apparemment il y aura le CNE... Dexlune restera et un QLCO qui va être créé à Aix. Et on voulait vous parler justement du coup, en fait, c'est quoi un QLCO. Du coup, enfin, je redis, c'est du coup les quartiers de lutte contre la criminalité organisée et avec des conditions hyper vénères. En fait, l'idée c'est de créer quelque chose de parfaitement étanche. On voit bien la déshumanisation juste dans ces termes-là. Avec un doublement des grilles aux fenêtres en complément des barreaux, mais aussi des arrêtoires de portes, de la dévégétalisation complète des cours de promenade, l'installation d'un portique à ondes millimétriques, un bardage des cours de promenade, l'aménagement sur le secteur parloir et l'équipement en caméras piétons pour du coup les matons dans ces secteurs. Tout ce projet de sécurisation hyper forte et aussi l'agrandissement du parking du personnel. Pour les QLCO donc, et je voulais bien redire que à Vendin, là où il y a plusieurs prisonniers qui ont déjà été transférés, les hygiaphones, ce sont des vitres qui séparent les familles de leurs proches prisonniers, qui empêchent de se toucher, où on est obligé de se parler dans un micro. Si on parle, on se voit pas. Si on se regarde, on peut que se regarder à travers cette vitre d'hygiaphone. Et du coup, ils vont les généraliser dans toute la détention, en QLCO, mais aussi dans les quartiers d'isolement et aussi dans les QPR. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est les quartiers de prise en charge de la radicalisation, les quartiers de terreau, quoi. Et tout ça en prenant le prétexte de la clé USB de Salah Abdel-Salam, dont tu parlais juste avant. Et ils veulent étendre du coup ces conditions des QLCO aux centrales en général en utilisant des prétextes.
C'est monstrueux.
Ouais. Ouais.
D'ailleurs, il y a des recours administratifs qui ont été teintés sur, par exemple, à Vendin-le-Vieil, par des avocats qui ont teinté vraiment des recours collectifs et contre ces conditions inhumaines. Et il y a eu une seule décision positive du tribunal administratif de Lille concernant un détenu qui avait fait un recours contre le fait que les lumières étaient allumées toutes les deux heures dans sa cellule parce que c'est prévu par le régime de CQLCO. Donc le tribunal avait donné une réponse favorable au fait que cette forme de torture arrête, et bien évidemment l'AP a fait recours de cette décision du tribunal et donc a annulé cette décision du tribunal de Lille parce que bien sûr il faut maintenir faut vraiment que ce soit des endroits de torture et des déshumanisations complètes des individus qui sont enfermés, quoi.
En vrai, peut-être pour abonder un peu dans ce sens-là, c'est intéressant de regarder ce qui peut terminer en QLCO. Genre, évidemment, il y a plein de recours, puisque la loi est très arbitraire sur la question. D'ailleurs, il y a plein de prisonniers qui ont fait appel de leur placement en QLCO, mais il faut savoir que le placement en QLCO, il est pas fait pour, enfin, il survient. C'est pas une punition qui est liée à des faits. C'est lié à des suspicions de dangerosité. Donc, enfin, ou alors potentiellement, ce qu'on suspecte, c'est que ça va être aussi du chantage pour avoir des infos avec les personnes poucaves, avec le statut de repenti qui était mis en avant dans la loi narcotrafique. Mais aussi, soit pour si t'as des informations que tu veux pas lâcher, tu peux être placé en QLCO pour que tu parles. Soit si on imagine que tu peux être dangereux. Mais du coup, t'es placé dans un c'est un peu un glissement de la justice, de dire tu peux être enfermé plus sévèrement, pas pour des faits que tu as commis, mais pour des faits que tu pourrais commettre parce qu'on estime que t'es dangereux, ou pas parce que tu veux pas parler au final. C'est-à-dire que tu peux être libéré parce que tu veux bien parler, ou que tu es enfermé parce que tu veux pas parler. Au final, c'est un peu pareil, si tu prends de la peine parce que tu refuses de collaborer et pas pour des faits graves que tu as commis. Si on prend la définition légale des je sais pas si vu qu'il nous reste quelques minutes, si on veut lire la définition l'article de loi qui explique comment on peut se retrouver en QLCO, donc accrochez-vous, il y a des mots compliqués. C'est à titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisée, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ de l'application des articles blablabla du code de la procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la Justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. S'il s'agit d'une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l'affectation qu'après information du magistrat chargé de l'enquête ou de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de sa part, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de cette information. Je suis allé vite, oh là là. Mais je vais expliquer. Du coup, ça veut dire que c'est le ministre de la Justice ou un juge, enfin, soit un juge veut le placer et le ministre de la Justice dit oui, soit le ministre de la Justice dit on le place. Mais c'est vraiment une décision administrative. C'est pas une condamnation pénale, t'as fait ça, tu vas dans tel, ouais. dans tel quartier. C'est si le Darmanin considère que quelqu'un est dangereux, il peut dire j'aimerais bien que lui soit passé dans un QLCO. Et là, il y a deux cas de figure. Soit il est condamné et le juge peut dire, enfin, peut le demander et dire s'il est d'accord ou pas. Mais il peut vraiment dire non. Enfin, le magistrat. Enfin, voilà. S'il n'a pas été encore condamné, parce qu'on peut se retrouver, enfin, ce que dit cet article, c'est qu'on peut se retrouver dans ces quartiers, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui y sont, sans avoir été encore condamné. On peut être enfermé dans cet endroit de torture blanche, en détention provisoire. Et donc là, par contre, c'est un peu différent. Si le magistrat chargé de l'enquête, il trouve que c'est abusé, il peut dire non, après, il va pas le faire, et s'il dit rien, on va considérer qu'il s'en fout. C'est ce que dit, genre, à défaut d'opposition de sa part. Donc, s'il se manifeste pas, tu peux t'y retrouver. Voilà. Mais, si Darmanin veut mettre, enfin Darmanin peut du coup mettre à peu près n'importe qui dans ce quartier, ouais. Et c'est vraiment à sa discrétion, c'est vraiment une mesure administrative.
Et tu penses qu'un juge va aller contre Darmanin? Tu penses qu'un juge va aller dire ah monsieur Darmanin, je suis pas d'accord avec vous, hein? Allez, bah, je le laisse, tiens, allez.
Il arrive marginalement que les jurs soient un peu moins pires. Des fois même, ils condamnent des présidents et ah là là, ils sont des staliniens, enfin c'est de l'extrême gauche. Non, ça pourrait arriver.
Il faut qu'ils prennent des pipeaux, c'est mieux, ça ira plus vite. Parce qu'il y a encore une fois de plus, et bien on met des gens et que c'est pas sûr que. Voilà. Bon, prenez des bons avocats, hein. Prenez jamais un avocat d'office, hein, parce qu'ils sont avec eux.
Mais voilà, à part marginalement, peut-être quelques juges qui pourraient s'opposer s'ils le veulent, si la personne est effectivement condamnée. Sinon.
Et Darmanin, il fait comme Sarkozy, il le met en prison.
Ils font un peu ce qu'ils veulent.
Et voilà. Ouais, et du coup, c'est une décision qui peut être renouvelée tous les ans.
Ouais, ouais.
Et c'est un peu à l'infini, quoi, parce que ça se base pas sur des faits, mais sur un gros un avis, quoi.
Suspicion de dangerosité.
Voilà. Presque le on dit. Bientôt. Mais, on va te dire, tiens, t'as ma voisine d'en face, là, elle a fait un attentat, elle a failli me faire péter l'immeuble, ça y est. Si elle est étrangère, allez, hop, on prend la famille, et allez, on plie tout ça et on enferme tout ça.
Je me suis pas trop étendu sur les articles de loi, mais parce que en gros, à peu près n'importe quel, enfin, il y a beaucoup de délits qui rentrent dans ce cadre, notamment trafic de stupéfiants ou vol, enfin, trafic de stupéfiants en bande organisée ou crime en bande organisée. Donc, ça, c'est assez large pour que beaucoup de prisonniers puissent s'y retrouver. T'as tué 10 personnes, non, c'est vraiment.
Ça sera beaucoup de, à tous les coups, ça sera que la plupart des étrangers, une fois de plus, il y a encore une excuse pour les faire partir.
En tout cas, je pense que c'est bien de suivre un peu le développement du QLCO à Luynes. Et puis avec l'ouverture des Baumettes 3, j'ai l'impression que
ça va continuer.
À Marseille et à l'entour, ils ont quand même bien envie d'enfermer de plus en plus de gens. Du coup, si jamais vous entendez parler, vous avez des infos de l'intérieur et des transferts au Baumettes 3 et vous entendez parler de ce qui se passe à Luynes.
Mais là, ça commence, ça devrait commencer là.
Les transferts,
au Baumettes, là. Il part d'ici 2 semaines, 3 semaines. Hein.
En tout cas, la prison, elle est tellement surpeuplée que je pense qu'ils ont déjà de quoi remplir les nouveaux bâtiments des Baumettes 3.
Déjà, il y a beaucoup qui dorment sur le matelas, que ce soit Rivan ou MAF, CD, ils dorment sur les matelas, certains. Et ils vont la re-remplir pour en fait, ils vont juste décaler le problème. Allez, toi, t'es à la fin, on va te mettre là. Toi, on va te mettre là. Toi, on va te mettre là. Mais par contre, il faut remplir. Voilà, donc, ils vont remplir une fois de plus.
Donc, oui, en tout cas, les Baumettes 2 n'ont pas permis de diminuer la population carcérale. Peu après la réouverture, on est déjà à 200%.
Ça se remplit. Il y en a que je vous dis, ils dorment sur les matelas avec les cafards, les machins ici et là. En fait.
Ouais. Est-ce qu'on passe à un petit point agenda
pour clôturer, je sais pas s'il y a d'autres trucs que... Bah, il y a une soirée de soutien le 15 novembre, donc la semaine prochaine.
À Lyon.
C'est pas à Lyon, c'est à Marseille. Ah,
aussi.
C'est rue, ouais. C'est à Marseille, c'est au local Gassan Kanafani. Ouais. Et c'est au 23 rue de Crimée, 13003 Marseille, donc c'est dans la belle de mai. C'est une soirée de soutien à la lutte des prisonniers politiques révolutionnaires anatoliens contre les cellules type PUI du régime fasciste en Turquie. Ils ont un petit communiqué qui va avec la soirée de soutien, qui explique « Dans les prisons impérialistes, fascistes et sionistes, les prisonniers révolutionnaires luttent et résistent. De la Palestine à la Turquie, du Paraguay à la Grande-Bretagne, de nombreux prisonniers politiques sont en grève de la faim. Plusieurs camarades en Turquie sont en grève de la faim illimitée. Ils luttent pour la fermeture des cellules S, R et Y, type PUI, contre la torture de l'isolement dans les prisons. Certains d'entre eux sont en grève de la faim illimitée depuis plus de 200 jours. Oh. Leur lutte est un symbole de résistance contre le régime fasciste de Turquie, pays membre de l'OTAN. Il y a un déroulé de la soirée, ça commence à 18h. Et voilà, il y aura des ateliers d'écriture de lettres aux prisonniers politiques révolutionnaires et qui sont enfermés en Turquie et dans les prisons sionistes. À 20h, il y a une intervention de la camarade. C'est qu'il y a une ancienne Akar, elle s'appelle, c'est son nom de famille, et c'est une ancienne prisonnière politique et l'épouse du prisonnier en grève de la faim, qui s'appelle Fikret Akar, désolée, je sais pas comment on prononce. Et il y a une projection d'un documentaire sur la lutte des prisonniers politiques révolutionnaires, en Turquie toujours. Contre la torture de l'isolement, contre les prisons impérialistes, fascistes et sionistes, pour la résistance. Voilà, donc c'est le 15 novembre, ça va être sympa.
Je sais pas si on ira, peut-être, qui sait. En tout cas,
ça c'est cool que c'est grave cool d'avoir organisé ça, quoi.
Grave.
Surtout l'écriture de lettres.
De toute façon, toute lutte contre les prisons.
On prend.
Hein. On ouais, prend. De comme on dit, écrire la toile et le matin au milieu. Hein, donc, on le lâchera pas et on lâchera rien. Et personne n'est à l'abri, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Celui qui mange que des yaourts.
On en rigole. Eh oui.
C'est l'info à avoir, ça. Hein.
Ah, mais on va le suivre très près, quand même. Mais la petite Carla va y amener le colis de Noël, elle va dépasser les kilos.
Mais je pense qu'il va bien, il va sortir bien avant Noël. Parce qu'en tout cas, il y a des DML qui ne sont pas examinés avant des mois et des mois. Mais alors, la DML de Sarkozy, elle sera examinée lundi. Du coup. J'imagine que, enfin, en tout cas, on est contre toutes les prisons, mais enfin voilà.
Et oui, parce que déjà, ils n'ont même pas confiance à la pénitentiaire parce qu'ils prennent les gardes de monsieur Sarkozy. Pourquoi vous avez peur, monsieur Darmanin? Vous n'avez pas confiance à votre pénitentiaire? Vous avez peur que l'ancien président passe de l'autre côté? Bon, on suit. Ouais. En tout cas, force et courage à Karim, aux trois frérots, Quentin, aux filles des Baumettes, Barbara, Lalou,
Zouzou, Delphine.
Voilà.
À toutes les personnes qui nous écoutent.
Plein de force, plein de courage.
Force à l'intérieur. Sarah également. Et s'il y a des libérables, faites savoir. Et on sera devant les Baumettes aussi. Si vous voulez témoigner, ben, vous voyez, on les fait passer. Voilà, je fais passer encore le mot. Si vous voulez témoigner, on sera toujours devant les Baumettes.
Force aux proches aussi.
Voilà. Force et courage en tout cas. Un son?
Et ouais, on va terminer par un son, bien sûr.
Voilà, comme ça, on met un son et après, on fait un coucou, un au revoir collectif.
Je pense qu'on peut faire le revoir maintenant.
On va faire le revoir collectif maintenant. Bon, mais au c'était. Au oh, Liane, il est pressé. Il est au revoir, ciao. Salut, Liane. C'est la rentrée. Donc, l'équipe, on était bien là.
C'est rentré pendant deux mois à la courte échelle.
Non, mais il est venu quand même. Hein, il est venu quand même. Bon, il a été sage quand même.
Merci.
Il est venu, même voilà quoi. Même on a eu fait des émissions à deux, n'est-ce pas, Lia? Hein, mais il y en a qui sont partis se promener en Belgique.
Waouh, le règlement
d'arrêt. Il y en a qui ont pété l'anniversaire le 13 octobre, je sais pas. Voilà quoi. Donc, voilà l'équipe de la courte échelle. Bon, on envoie le son.
Après, ça te fait aligner. Pense fort à vous, à la semaine prochaine.
Force et courage à vous. Allez, à dimanche prochain pour la nouvelle émission.
À la semaine prochaine. Ouais. Et on se quitte avec Je ne veux pas partir de Joule.
Bonne écoute.
J'ai grandi, je veux toujours pas quitter le quartier. Je veux pas partir, non, non, je veux pas partir. Fais pas style, tu me connais pas, je suis là depuis paranoïa. Tu m'as haï pour rien, moi je t'aimais bien, tu pars rouillé. 2017, tu pars rouillé, je suis encore là le maillot mouillé. Je suis là, mes chics, si je coule, écriront tous alléluia. Je me suis toujours débrouillé, même si le bonheur il m'a douillé. T'inquiète, je bois tout et même quand on veut m'amadouer. J'ai trop de frères écroués, avec la rue faut pas jouer. En cellule, tu m'as les mamas et l'estomac noué. Si tu parles dans la voiture, elle a versé des larmes. Autour au quartier, je préparais le parachute, elle t'allait des armes. Ma chambre, elle était vide, sans mon frérot, c'était bizarre. J'aimais pas me retrouver seul, alors on était tout le temps plusieurs. J'avais d'autres potos qui braquaient avec des plans par-ci par-là. Ils ont purgé sur pépé, ils viennent à peine de sortir là. Je me rappelle des games testés, y'avait un bruit, on était plein. On mettait 2€ chacun pour pouvoir mettre le quart d'un plein. Un été, c'était le feu, y'avait tout le quartier à la Ciota. Il ne regarde pas travers, si le poteau se bat, on va tous sauter. On tous connu avec la Twingo, je faisais des freestyles de dingo. Tout le quartier dans ma chambre, mon micro, on insultait le comico. Au chalon, le Sancho, dis-moi comment battu. T'étais tout le temps avec nous, t'as fait de la tôle, j't'ai plus revu. Vas-y, viens, le quartier revit, même si c'est plus comme avant. Mais y'a toujours autant de filles qui nous font des commandos à la pente. Et ouais, il manque des gens, mais si tu veux, c'est la vie. Faut tracer son chemin pour reconstruire son avenir. J'ai grandi, je veux toujours pas quitter le quartier. Je veux pas partir, non, non, je veux pas partir. J'ai grandi, je veux toujours pas quitter le quartier. Je veux pas partir, non, non, je veux pas partir. Poto, vas-y, souris, c'est pas voulu quand je t'oublie. D'entrée, tu te fais des films, d'entrée, tu t'es vu me doubler. La Honda, bande de fada, on va sortir à ma date. Mon Atiko, Asdin, les deux, Wassim, Mehdi et Amada. Je croisais Norit dans la cité, il était comme moi dans la galère. Et quand maman n'était pas bien, je voyais la mère Tilou, sa mère. Avant l'école, tous les matins, avec mon frère, c'était bagarre. Et je voulais mettre FIFA, lui, GTA, on n'était pas d'accord. Je faisais du sport, j'allais au foot, après j'ai commencé la fuite. C'est avec les gens du quartier que j'ai fait mes premiers feats, mes premiers daily tweets. Ça l'équipe dans les écouteurs, j'écoutais du son de Marseille, y'avait que des tueurs. J'avais pas de studio, je montais en Vespa jusqu'à traite. J'oublie pas les frangins de là-bas et le groupe la stress. Je repose un clic en Peter Compiferous. On grippe ton bâtiment de bande à chaque équipe, fallait des flous. On n'oublie pas les temps pleins, on charbonnement dans l'Agdar. Tu te dis qu'il faut faire le pain quand t'as pas un, t'as la dalle. Les dédicaces à KTS, on double par la voie de détresse. Ouais, fils, ça claque le bénéf à la roulette. C'est chaud ce combio, demande à Fabio. C'est avec lui que j'ai grandi dans le barrio. On a souffert, on a souffert. Demande à Gilou, une pensée pour son père. J'oublie pas, et c'est l'as pour Baby Boy. On a tourné métro la rose, on a fait TP en classe jusqu'à ce qu'on me déscolarise. J'ai grandi, je veux toujours pas quitter le quartier. Je veux pas partir, non, non, je veux pas partir. On a le démon alcoolisé, ouais, mon date est dit. C'est comme ça au quartier, de toute façon c'était écrit. Et demande à Mousse, la vie c'est dur, il faut des flous. Pour avoir des nouvelles choses, on aime bien les bons délires, les plans trapper les concerts. On reste fort malgré les coups bas, demande à Mouxer. J'suis dans ma chambre que ça règle, on veut péter la baraque. S'il faut se lever le matin pour ta fournir, demande à Tarek. Ce soir je tenais à le faire, avant que mes yeux se ferment. Ce soir je tenais à le faire, avant que mes yeux se ferment.